France Inter.
Bonjour à tous. Fête nationale par temps de guerre, jour de l'indépendance en Ukraine. Aujourd'hui, visite sur place du Premier ministre canadien et de l'émissaire américain de Donald Trump. Nous serons à Kiev dans un instant, où l'on exhibe des armes russes en plein cœur de la capitale. En Israël, l'opposant Benny Gantz appelle le Premier ministre israélien à une nouvelle coalition sans l'extrême droite pour aider à la libération des otages. Mais peu de chances que cela aboutisse. François Bayrou au bord du vide, la rentrée s'annonce agitée pour le Premier ministre. Retour à une communication classique, demain, conférence de presse depuis Matignon pour tenter de convaincre. À suivre encore, dans le Val-de-Marne, le parquet requiert la mise en examen du principal suspect après la découverte de 4 corps dans la Seine la semaine dernière. Un nouveau test pour la fusée Starship de SpaceX. Et puis, fin des vacances ou prolongation, ce sera en tout cas sous un ciel clément, Virginie Hilson-Lévy. Soleil et chaleur cet après-midi.
Oui, l'été se poursuit avec une hausse des températures. Je vous donne tous les détails dans quelques minutes.
France Inter.
34 ans après la dislocation de l'Union soviétique, l'Ukraine célèbre donc son indépendance aujourd'hui. Un pays en guerre dans lequel les combats se poursuivent. Attaques de drones ukrainiens en Russie aujourd'hui. Prise de nouveaux villages dans la région de Donetsk, revendiquée hier par Moscou. Et même si les perspectives d'une négociation s'éloignent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de croire à la paix. Il s'est adressé au pays en ce jour particulier, extrêmement de son discours partagé sur les réseaux sociaux ce matin.
L'Ukraine ne sera plus jamais contrainte dans l'histoire à endurer la honte que les Russes appellent un compromis. Nous avons besoin d'une paix juste. Nous déciderons seuls de notre avenir. Le monde le sait, le monde le respecte et traite l'Ukraine d'égal à égal. L'Ukraine est capable en un seul jour de rassembler et de fédérer autour d'elle les dirigeants du monde entier. L'Ukraine qui a restauré l'unité de l'Europe et des États-Unis et qui sert désormais de fondement à cette alliance.
La communication de Volodymyr Zelensky en tenue traditionnelle depuis la place Maïdan à Kiev. Maïdan, place de l'indépendance en plein cœur de la capitale qui accueille en ce moment une exposition un peu particulière de l'armement russe capturé dans le Donbass qui attire, Bastien Boru, de nombreux Ukrainiens.
Attiré par la foule, Pavlo, la cinquantaine, a laissé son vélo contre la tôle froissée d'un char russe qu'il balaye de sa main gantée comme pour effacer une époque à ses yeux révolus.
Vous voyez ça, ça appartient aux Russes. Vous savez, ceux qui sont venus pour nous libérer, mais on ne sait pas très bien de quoi.
Un peu plus loin, Olesia prend des photos de ses enfants qui rient et s'agitent autour d'un lance-missile récupéré sur le front. Un contraste tout sauf saisissant pour cette habitante de Kiev.
Pour moi, c'est un jour de fête à part entière. Oui, c'est un pays divisé, mais il est grand. Et même si ce qui se passe en ce moment est terrible pour nous, cela ne change rien au fait que nous vivons dans un pays indépendant et libre.
Nikolai s'est approché en souriant. Le visage de cet ancien mineur du Donbass raconte des années de labeur, mais la guerre ne l'a pas fait plier.
Nous ferons la fête plus tard. Aujourd'hui, ce n'est qu'une commémoration. La vraie fête aura lieu quand nous aurons vaincu cet animal et quand gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, sera entendue dans le monde entier.
Aujourd'hui, dans la capitale, joie et gravité se mêlent. La Russie, elle, a encore lancé 72 drones bombardiers et un missile balistique la nuit dernière. À Kiev, Bastien Boru, France Inter.
Ce matin, le chef de la diplomatie russe accuse les pays occidentaux de chercher des prétextes pour empêcher les négociations de paix. Sergueï Lavrov reproche également à Volodymyr Zelensky de vouloir poser trop de conditions préalables à une rencontre. En Israël, une main tendue, celle de Benny Gantz, chef de l'Union nationale, parti de centre-droit. Sa proposition, former une coalition avec les autres dirigeants de l'opposition et le Likoud de Benjamin Netanyahou. Cela permettrait de neutraliser l'extrême droite qui tient l'avenir du Premier ministre entre ses mains. Ces derniers s'opposent par ailleurs à tout accord de libération d'otages avec le Hamas et plaident pour la poursuite de la guerre à Gaza. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem. Peu d'espoir toutefois que cette tentative un peu désespérée aboutisse. Elle en dit long d'ailleurs, Michel, sur le blocage politique dans le pays.
Oui, c'est une proposition alléchante, mais sur le papier seulement. Benny Gantz, ancien ministre, ex-chef d'état-major, propose à Benjamin Netanyahou de mettre en place une coalition d'urgence nationale, un gouvernement centriste, pour échapper à l'emprise de l'extrême droite qui s'oppose à toute trêve à Gaza. Alors Gantz propose au Premier ministre israélien le soutien de 72 députés sur les 120 que compte le Parlement, alors qu'après le départ des ultra-orthodoxes, le gouvernement israélien ne jouit plus de majorité à la Knesset. L'objectif est double, signer un accord pour la libération des otages et également trouver une solution à l'éternel problème de la conscription des Haredim, les ultra-orthodoxes qui réclament l'exemption du service militaire. Mais derrière cela se cache le fait que le parti de Gantz, le bleu-blanc, selon tous les sondages, ne passe plus le seuil électoral. À ce stade, c'est une proposition qui se heurte à un mur de silence de la coalition et au ricanement de l'opposition. Un spectacle pitoyable, proclame Victor Lieberman, un des ténors de l'opposition. Pour lui, Benny Gantz est un homme fatigué, effrayé, paniqué, qui rampe vers Netanyahou pour sauver sa peau.
Décryptage depuis Jérusalem de Michel Paul, RFI pour France Inter. L'Espagne a connu sa vague de chaleur la plus intense depuis le début des relevés météo. 16 jours de canicule cet été et des températures près de 5 degrés au-dessus d'une vague de chaleur normale. Températures élevées qui ont attisé les feux de forêt que les pompiers espagnols semblent peu à peu réussir à dominer. En France, François Bayrou ne désespère pas. Il veut convaincre les Français, dit-il ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France, du bien fondé de son plan d'économie. 44 milliards d'euros de coupes sur le prochain budget. Le Premier ministre, face à la perspective d'un blocage dès la rentrée et d'une censure cet automne à l'Assemblée, il tiendra demain après-midi une conférence de presse. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet.
Bonjour.
Professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Après un été actif, des déplacements, des vidéos sur YouTube, on revient là à un mode de communication très traditionnel de la part de François Bayrou.
Oui, François Bayrou, comme vous l'avez souligné, il a deux obstacles devant lui. Il a d'abord le problème de la censure.
Philippe Moreau.
Il n'a pas de majorité au Parlement, ça c'est beaucoup, durci.
On vous entend.
Et il a un autre problème qui est... effectivement le rapport à l'opinion et aux Français qui a beaucoup perdu de ce côté-là. Il est très impopulaire aujourd'hui. Et il a un plan d'austérité à annoncer qui lui-même en soi est impopulaire face à une contestation d'un genre complètement nouveau en cette rentrée. On a jamais vraiment vu ça. C'est-à-dire que des groupuscules d'extrême droite sur TikTok, sur X, ont poussé à un blocage du pays le 10 septembre et ils ont réussi à entraîner une partie de la gauche et à pirater finalement la rentrée syndicale.
Comment qualifier d'ailleurs cette situation, mouvement de blocage, appel au blocage soutenu par la gauche, vous le disiez, et cette potentielle censure en automne, comment on peut qualifier ce moment ?
C'est un moment totalement inédit, d'abord parce que le Premier ministre est seul au front. Il a essayé cet été, vous l'avez dit, de communiquer directement avec les Français, ce qui est plutôt de l'apanage du président de la République. Il n'y est pas complètement réussi parce que le format n'était pas le bon, on était en plein milieu du mois d'août et il n'y avait pas vraiment de contenu dans son message. En réalité, là, il est toujours tout seul. Le président, lui, il est sur les fronts européens, internationaux et évidemment très, très occupé, très visible. Donc, c'est assez inédit. On a un Premier ministre véritablement tout seul qui applique des recettes donc, qui sont peut-être élaborées essentiellement par lui-même. Il n'a pas beaucoup de soutien politique. Personne n'a pris sa défense pour l'instant. Donc, c'est un cocktail assez mauvais quand même pour François Bayrou en cette rentrée.
Justement, ce matin, l'un de ses proches, Richard Ramos, député Modem, dit qu'il faut revoir la copie, par exemple, renoncer à la suppression des jours fériés. Est-ce que c'est pas un peu trop tard de toute façon ?
Alors c'est très symptomatique que ce soit un membre de son propre parti, le Modem, hein, qui commence à contester la méthode et les préconisations du Premier ministre. Ça montre aussi à quel point la pression sur François Bayrou est forte. Si véritablement, il ne trouve pas un relais dans le milieu, on aura des difficultés très fortes de son côté.
La liaison est difficile. En un mot, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que ça peut marcher, cette conférence de presse, selon vous ?
Ça va être très difficile parce qu'il a suivi la méthode Macron, François Bayrou, c'est-à-dire on décide d'abord, on négocie ensuite. Ça, c'est possible quand on a une majorité forte au Parlement. Ça n'est pas possible quand on se retrouve face à l'opinion, seul et sans aucun soutien au Parlement.
Philippe Moreau-Chevrollet, merci, professeur de communication politique à Sciences Po Paris, et encore désolé pour cette liaison un petit peu compliquée. Objectif abrogation totale de la loi Duplomb. Le groupe LFI à l'Assemblée déposera une proposition en ce sens lors de sa niche parlementaire fin novembre. C'est ce que dit la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, lors des universités d'été du parti dans la Drôme. Loi Duplomb dont la principale mesure, la réintroduction de l'acétamipride, pesticide contrôlé, a été censuré mi-août par le Conseil constitutionnel. Il est 13h10.
France Inter, le journal de 13h, Xavier Demagny.
Le mystère se dissipe peu à peu, 10 jours après la découverte de 4 corps dans la Seine. Après 4 jours de garde à vue, le parquet de Créteil a requis ce matin la mise en examen du principal suspect et réclamé sa détention provisoire. Jean-Philippe Degnaud, il serait impliqué dans les 4 meurtres.
Oui, c'est un profil de tueur en série qui se dégage des premiers éléments d'enquête avec ce jeune suspect d'une 20aine d'années, apparemment de nationalité tunisienne, un SDF habitué du squat des bords de Seine, près du lieu où les corps ont été repêchés, également point de rendez-vous homosexuel. L'homme a gardé le silence sur les faits en garde à vue, mais l'enquête lui attribue donc les 4 meurtres commis en 2 semaines au cours de l'été. Les 2 premières victimes, dont les disparitions ont été signalées fin juillet, sont elles aussi des habitués du squat. Les 2 autres hommes jetés à la Seine, dont les disparitions remontent à début août, auraient croisé leur agresseur à l'occasion d'un rendez-vous sexuel. Les enquêteurs de la police judiciaire du Val-de-Marne ont recoupé des témoignages avec les enregistrements de vidéosurveillance et de téléphonie. Ils disposent également des effets personnels des 2 premières victimes retrouvées en possession du SDF, ainsi qu'une trace ADN de la 4e victime. L'homme, qui s'expliquera ultérieurement, indique son avocat, devrait être mis en examen et placé en détention provisoire dans l'après-midi.
Jean-Philippe Degnaud, service police-justice de France Inter. 2 nouveaux cas de noyade ce week-end. 2 cousins de 3 et 4 ans retrouvés morts à Orly, en Ile-de-France, dans un plan d'eau interdit à la baignade. L'ARCOM se justifie face aux critiques dans l'affaire de la mort de ce streamer, Raphaël Graven, alias Jean Pormanov, victime de sévices diffusées en direct sur la plateforme australienne Kick. Ce drame pose la question de la responsabilité de la plateforme, affirme le président du régulateur de l'audiovisuel et du numérique dans une tribune publiée par Le Monde ce midi. Mais n'étant pas installée en France, elle ne relève pas de notre compétence directe, ajoute Martin Hachdari. La légalité des contenus est à l'appréciation de la justice, précise-t-il encore, soulignant l'ampleur considérable de cette mission au regard du nombre de services numériques et de la profusion des contenus. Journée importante pour SpaceX ce dimanche. Nouveau vol test de la méga fusée Starship destinée à aller visiter la Lune et Mars, et ce après plusieurs échecs, des explosions lors des derniers essais. Ce nouveau vol prévu la nuit prochaine heure française doit permettre de mettre à l'épreuve la partie vaisseau de la fusée. Il sera scruté de près par la NASA qui compte sur l'entreprise d'Elon Musk pour son programme lunaire. Paul Vorer est le responsable du programme espace au Centre géopolitique des technologies de l'IFRI.
C'est censé être le véhicule qui permettra aux astronautes de se poser en fait sur la Lune dans le cadre de ce programme. Donc le principe de SpaceX a été de faire un développement qu'ils appellent itératif, c'est-à-dire en fait on vole, on teste et on revient et on essaie de régler les problèmes qui ont eu lieu. Ils essayent vraiment de s'assurer de la fiabilité de ce vaisseau qui pour l'instant n'a pas démontré sa fiabilité avec différents problèmes. Et toute la question, c'est évidemment combien de temps ça prend de fiabiliser ce vaisseau, sachant qu'il y a une forme de course aujourd'hui qui existe entre la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, il y a même des spécialistes qui commencent à dire que la Chine avance très très vite. Il y a eu 3 tests cette année et récemment, la Chine a annoncé que se poser sur la Lune avant 2030, c'était vraiment l'objectif.
Paul Vorer, invité ce matin de France Inter avec Céline Asselot. Du foot, aujourd'hui 5 matchs de Ligue 1, dont le derby breton, Lorient-Rennes dans 2 heures et Lille-Monaco, 20h45. Ce sera la première d'Olivier Giroud, tout juste recruté par le LOSC au stade Pierre-Mauroy. Vous êtes peut-être sur la route en nous écoutant, route des retours. Pour beaucoup, ça bouchonne quelques 400 km de ralentissement ce midi. D'autres ont la chance de prolonger un peu ou bien viennent tout juste de commencer leurs vacances dans le Périgord. C'est le choix par exemple de Didier, la tente plantée à Vézac, tout près de Sarlat. Et c'est un choix. On l'écoute.
Bah, je trouve que c'est déjà plus calme la dernière semaine. Hein. Alors pour l'enfant qui est derrière, c'est peut-être un petit peu plus délicat parce qu'il y a moins de copains et moins de voilà. Hein. Il y a aussi une question de tarif. Quand j'ai payé l'autre jour, il m'a dit voilà, ça va être moins cher que les semaines entre on va dire le 14 juillet et le 15 août, c'est beaucoup plus cher. Alors après, les jours sont plus courts, la météo. Il y a des années avec, des années sans. Là, ça va, hein. Puis dans le Périgord, ça va, c'est beau quand même, hein. Puis c'est, oh, il y a ce petit plaisir à voir les gens partir, les entendre dire, bon, il reste une semaine et puis une aura jusqu'au bout. C'est un petit plaisir personnel dans ma tête, je l'avoue. C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, vacances tardives dans le Périgord pour ce Breton. On lui souhaite de bonnes vacances.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Le temps de ce dimanche après-midi, Virginie Hilson-Lévy, et ce sera une météo estivale.
Oui, le soleil brille partout. Des averses vont concerner le nord-est de la Corse. Le temps restera sec et lumineux sur le reste de l'île. Quelques orages vont éclater aussi sur l'est de la chaîne pyrénéenne en fin de journée, ainsi que sur le relief alpin et puis sur la moitié nord du territoire. Le ciel sera un petit peu plus voilé, mais beaucoup plus lumineux qu'en matinée, avec des nuages élevés qui vont envahir la Bretagne. Ce sera plutôt en fin de journée.
Et on attend plus de 30 degrés dans le sud-ouest.
Oui, les températures progressent grâce à l'ensoleillement et à l'air chaud aussi qui remonte d'Espagne. Elles seront quasiment partout à la hausse avec 27 degrés à Lyon et Nice, 30 degrés à La Rochelle, Marseille et Montpellier. On attend aussi 31 degrés si vous habitez à Toulouse, Bordeaux et Montauban. Il fera moins chaud au nord grâce à l'influence maritime, 22 degrés à Cherbourg, 23 à Rouen et Lille, 24 à Strasbourg et 25 degrés pour Paris.
Merci Virginie Hilson-Lévy, à tout à l'heure.